One, two, get down.
Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop.
Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what to see.
Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale, et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre et pas pour le sien, non. C'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Eh ben, il faut bien assurer, ben ses,
voilà.
Faut bien assurer ses fonctions, donc on le fait,
voilà.
Je suis là.
Chacun sa croix. Aujourd'hui, comme une fois par mois, nous consacrons cet épisode de Thérapie Pop à la saga de notre cher Serge Gainsbourg. Allez Gauthier, on se mouille la nuque et on y va. Plus qu'un épisode, et puis là on en a un bon en plus. Parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue musical, on va continuer à suivre d'un œil plus ou moins bienveillant la carrière reggae de Gainsbourg. Mais on va surtout, et ça va m'intéresser, s'attarder sur la psychologie du bougre. Et Dieu sait qu'il y a matière à faire plusieurs émissions sur ce sujet, mais une sera déjà pas mal pour toi. Alors on va essayer de synthétiser. Je vous propose les amis qu'on débute même l'émission avec un titre de l'album Mauvaises Nouvelles Étoiles. Et on va voir en effet qu'elles ne sont pas très bonnes.
Non.
Ce titre, c'est Ecce Homo.
Top.
C'est
pas top.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop.
Vous êtes bien, non, vous êtes sur Radio Présence et puis vous écoutez la plus belle des périodes de Serge Gainsbourg.
Vous serez bien la semaine prochaine.
Voilà, Gainsbourg qui fait du reggae, waouh.
Aujourd'hui, c'est jour de saga et on est à l'avant-dernier épisode de notre saga Gainsbourg, Gauthier.
On s'accroche.
Ah oui. Alors dis donc, mon vieux, moi j'ai la mémoire qui flanche. Tu me rappelles où on avait quitté le bon Serge le mois dernier ?
Alors on avait quitté Serge avec son premier album de reggae, période reggae, c'est-à-dire aux armes, etc., qui lui avait fait connaître la gloire,
ouais,
pour la première fois, la vraie gloire commerciale sur sa tête, quoi, sur son nom. Donc la thune coule à foison. Serge pèse lourd dans le game, tout le monde veut l'écouter. Et il va en profiter, on en parlera, pour sortir son deuxième album reggae, Mauvaise Nouvelle Sous les Étoiles, et qui est une vraie purge, un très très mauvais album.
Je crois que c'est Mauvaise Nouvelle des Étoiles.
Mauvaise Nouvelle des Étoiles, enfin, dans les deux cas, c'est une mauvaise nouvelle. Donc voilà dans quel cadre on est. Mais parce qu'avec Serge, le paradis n'est jamais très très loin de l'enfer, et ben, alors qu'il touche du doigt enfin cette gloire populaire qu'il a tant cherchée, et ben c'est Jane Birkin, l'un des amours, peut-être l'amour de sa vie, qui part.
Et ça, en effet, pour le coup, c'est pas la meilleure idée qu'il ait eue. Il n'y a pas à dire, il avait quand même un talent d'écriture hors du commun, mais niveau relations sociales, c'était pas la balle dans le pied qu'il se tirait, c'était le chargeur entier, ce bon Serge.
Oui, parce que sur cette rupture avec Jane Birkin, alors il y a probablement beaucoup de raisons qui leur appartiennent, mais il a un peu laissé faire. Il y a cette comparaison où quand Jane Birkin est allée tourner la piscine avec Alain Delon, il était allé à Saint-Tropez pour surveiller Jane, pour lui montrer que Alain Delon, il fallait s'en méfier, je pense. Mais à l'époque. Mais là.
Souviens-toi de la photo avec Mick Jagger.
C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a comment ça s'appelle ? Là, Jane Birkin part tourner avec Doyon, le réalisateur. Serge sent que, bon, il y a. Voilà, mais il y va pas, il suit pas, il laisse faire. Pendant ce temps, il sombre, lui, encore un peu plus dans, dans l'alcoolisme. Petit vertige suicidaire et autodestructeur. Il voit son histoire d'amour s'effacer et il la laisse. Complètement s'effacer en laissant sa femme dans les bras de son rival.
Et d'ailleurs, Gauthier, tu as une citation fort parlante de la délicate et délicieuse Régine.
De la délicate et délicieuse Régine qui cite un moment délicat et délicieux de vie de couple. Je cite Régine, un jour, on était à Deauville et il part avec mon mari 5 heures plus tard. Ils ne sont toujours pas rentrés. Jane et moi commençons à nous inquiéter. Finalement, ils réapparaissent et Serge nous annonce qu'il ne veut pas dîner. Et le voilà qui repart au club 13, un bar, où il se met à jouer avec tous les cons qui lui apportent à boire. Il a fallu que j'aille le chercher. Je l'ai pris par le callback et je l'ai ramené. Sous mes yeux, il a commencé à insulter Jane, Charlotte et Kate. Charlotte et Kate étant ses deux filles. Et tout le monde pleurait. Je l'ai attrapé. Je lui ai dit, maintenant tu t'arrêtes ou je te colle un marron. Il s'est assis. Il s'est mis à chialer. Il ne savait plus où il était. Grosse ambiance dans le couple Gainsbourg.
Et c'est vrai que moi, si Régine me proposait de me coller un marron, je me mettrais à pleurer aussi.
Et de t'attraper par le callback.
Elle me fait un peu peur, la dame. Et comme de bien entendu il n'en fallait pas plus à Jane pour boucler ses valises, elle lui témoignera toutefois un gage, si ce n'est de confiance, au moins d'affection, en le nommant parrain de sa petite dernière.
Oui, parce qu'elle part avec Doyon, avec qui elle aura un enfant, la célèbrissime Lou Doyon.
Et oui.
Elle dira, Jane, avant de partir, j'avais beaucoup aimé Serge Gainsbourg. Mais Gainsbourg me faisait peur, parce que oui, la période reggae, non content d'être une période musicalement épouvantable, est en plus la période de l'apparition de Gainsbourg sur Echo Homo et Che Homo, la chanson qu'on entend. C'est la première fois d'ailleurs que Serge cite son avatar, entre guillemets, son double maléfique, son Mr. Hyde du Dr. Jekyll, à savoir Gainsbourg. Et effectivement, Jane Birkin ne lui en tiendra pas à rigueur longtemps, puisqu'il sera choisi comme le parrain de la petite Lou. Jane Birkin d'ailleurs enregistrera un peu plus tard, avec Serge à la baguette, une chanson pour son prochain album, un truc Babylone, je ne sais plus exactement, la chanson Baby Lou.
Sur les abords du périphérique, je t'ai aperçu par ma vitre. On aurait dit comme le générique d'un film ricain sans sous-titres. Tu ne m'as même pas demandé où j'allais. On aurait dit que tu t'en foutais. Moi je fais les droits sur l'Atlantique.
Pendant que le bon Serge se noie d'alcool et de reggae, Jane fonce dans les synthés des années 80. Ouais. Musicalement, on est au top.
C'est vrai que c'est pas évident. Gauthier, même s'il ne savait plus lui montrer, il semblerait que Serge aimait toujours Jane et leur rupture l'a complètement anéanti.
Oui, au moment où donc il se quitte, Serge va être hébergé pendant quelques jours par Gérard Depardieu. Un bon thérapeute, je pense, Gérard, quand tu vas pas bien.
Assurément.
Parce que lui, il sait te faire...
Jean-Jacques Gueuleton.
Voilà, te faire picoler. Les deux se mettront une bonne grosse race pendant 3 jours sous les regards effarés du jeune Guillaume Depardieu qui à l'époque avait 9 ans. Puis dans le quotidien de Paris, on peut citer notamment un article du journaliste Eric Nohoff auquel Serge déclarera « J'ai cru toucher le fond de la piscine » et le fond de la piscine dont on reparlera un peu plus tard bien évidemment. « J'ai cru toucher le fond de la piscine et je me suis aperçu qu'il y avait un double fond. Je me retrouve tout seul dans cette garçonnière de milliardaire. J'ai un disque de platine. Ce qu'il me faudrait, c'est une fille de platine. J'ai eu une fille en or. » Mais elle s'est tirée.
C'est quand même... c'est toujours, même si c'est pas très bien écrit, c'est très bien dit, je trouve.
Oui, ça fait partie de ce personnage un peu autodestructeur. Alors, je l'ai pas mis dans l'émission, mais je te le dis, il y a Jane Birkin, notamment, dans une interview, qui avait dit que Serge était le grand personnage romantique russe, c'est-à-dire une espèce de vivre à fond, intensément, etc. Sans limite, et dans l'idée presque de terre brûlée, c'est-à-dire que, voilà, peu importe. Et avec cette espèce d'idée presque d'Ostoïevski, si tu veux, de vivre dans un environnement presque détruit autour de soi, quoi. Mais c'est Il est russe, hein, il est d'origine russe.
Et voilà. Et ça se retrouve un petit peu dans ses attitudes. On va faire une petite parenthèse, on va retrouver une connaissance dont on a déjà parlé, c'est Françoise Hardy. Et si on la savait chanteuse, on lui connaissait pas le talent de cartomancienne.
Non,
enfin,
moi non plus, je l'ai découvert.
Voilà, moi du moins je le connaissais pas. Il se trouve que cette dernière a eu la force d'étudier le cas Gainsbourg. Qu'est-ce qu'elle en a tiré, Gauthier ?
Alors c'est très marrant effectivement, parce que Françoise Hardy, dans ses multiples facettes, a été une grande passionnée de thèmes astral. Et elle a eu une émission sur Radio Monte Carlo, RMC, hein, bien évidemment, où elle décortiquera Gainsbourg, et je la cite, « Chez lui, l'affectivité est prépondérante, mais tantôt immature, avide, égocentrique, tantôt lucide, défaitiste. » Et alors, à l'époque, quand elle fait cette émission, elle fait venir une graphologue, une dénommée Anne-Marie Simon, qui aura pour travail d'analyser donc l'écriture de Serge Gainsbourg, et je vous livre son interprétation, qui est édifiante quand on arrive en plus en bout de saga sur Serge Gainsbourg.
Ouais, c'est vrai.
Chez lui, l'écriture n'est pas un acte de communication, mais un manifeste esthétique. On sent quelqu'un de très peu fait pour le bonheur. Il aurait voulu être autre. Il s'accepte très mal. En confessant qu'il a trahi la peinture, il s'automutile. Il s'est fait à l'idée d'une vie plus essentielle qu'il aurait ratée. On est en même temps frappé par son grand orgueil. Il ne s'aime peut-être pas, mais il a une immense conscience d'être quelqu'un.
Ouais. Et c'est une analyse assez profonde.
Oui, parce que.
Et assez vrai.
Dans la période Gainsbourg, on en reparlera, mais quand il va sur les plateaux télé et tout, on voit qu'il maîtrise complètement son environnement.
Complètement.
On voit qu'il voit l'admiration dans le regard de Gildas, notamment quand il va nulle part ailleurs et tout. Mais à côté de ça, c'est un cadavre sur pattes qui arrive et un type qui se déglingue complètement, quoi.
Ouais. Et ce quelqu'un, justement, dont il a conscience, Gauthier, il ne peut désormais plus être seul. Aussi, Jane sera assez rapidement remplacée par qui ?
Elle va être remplacée par une dénommée Bambou, plus connue sous son nom de Bambou, mais dont le nom de baptême est Caroline Elisabeth Paulus. Paulus, le général de Stalingrad. Il y a apparemment
von Paulus.
Il y a apparemment, alors on ne sait pas, un lien de filiation peut-être.
Ah bon?
Pas sûr. Ouais, ouais. Certains disent que c'était son oncle.
D'accord.
Bon, pourquoi pas, hein, après
pourquoi
tout.
Pas.
Donc cette dénommée Bambou, pour qui notamment Alain Chamfort chantera avec Serge Gainsbourg à la plume, la chanson Bambou.
Et je crois, Gauthier, que l'arrivée de Bambou dans la vie de Gainsbourg ne coïncide pas avec une grosse remontada sur le plan psychologique.
Non, c'est même connu comme une période très destructrice pour Serge Gainsbourg, et où Bambou jouera un peu son double aussi un peu maléfique. En
elle
gros,
aussi, hein.
Ouais. C'est une cause supplémentaire de dégringolade. Ils partiront justement à Los Angeles rejoindre Alain Chamfort pour l'enregistrement de ce nouvel album pour Alain Chamfort, pour qui il avait travaillé avant pour Manu Reva, notamment, on en a parlé lors de la précédente émission. Et pendant qu'il travaille sur cet album d'Alain Chamfort, Bambou fout la merde, s'engueule en boucle avec Lio, qui est à l'époque la meuf d'Alain Chamfort.
Ah ok, je comprenais pas ce qu'elle venait faire là-dedans.
Si, si. Et tandis que Serge Gainsbourg, lui, n'arrive plus à sortir le moindre texte, donc Alain Chamfort est obligé un peu d'essayer de lui arracher les mots du nez, on va dire, plutôt que les vers du nez. Voilà, c'est une période aussi où il composera un album pour Catherine Deneuve, dispensable selon les puristes. Vous m'excuserez si j'ai sauté son écoute, j'en ai déjà assez avec l'album de Jane Birkin et avec l'album de Serge Reggae.
Ouais. Et justement, Gauthier, si on parlait un petit peu musique, enfin justement de sa musique à lui, je crois que t'avais encore envie de t'énerver sur le reggae.
Non, mais bon, oui, il vient de connaître le succès avec Oxarm, etc. Donc, album réglé avec la reprise de la Marseillaise, etc. etc. Mm-hmm. Donc, pour mon plus grand plaisir, Serge persévère et donc sort le 17 novembre 1980 Mauvaise Nouvelle des Étoiles. C'est Mauvaise Nouvelle des Étoiles, hein, titre que j'ai écorché largement depuis tout à l'heure. Un album dont on tiendra peut-être l'invention donc de Gainsbourg sur Ecce Homo, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui se vendra correctement, hein, puisqu'il sera disque d'or. Mais voilà, ça reste un un album absolument épouvantable à mon sens. Un exemple, parce que on avait parlé notamment de Vue de l'extérieur, qui était un album autour des vents, des paix, mais qui restait quand même assez bien, enfin assez bien, assez écoutable. C'était de là dont était tiré Je suis venu de dire que je m'en vais. Et ben,
au vent mauvais.
Voilà, Serge Gainsbourg continue avec ses histoires de paix sur cet album, mais là, bon, on fait même plus semblant. Je vous fais écouter un extrait de la chanson Evgeny Sokolov. Je vous laisse apprécier. Voilà, Théo, on ne fait même plus semblant, on fout un air de reggae complètement bateau et on met un mec qui lâche des caisses.
Ça gasse pas des masses pour ce pauvre Serge.
Non, pas top.
À noter qu'il avait écrit un bouquin, hein, Evgeny Sokolov.
Oui, c'est je crois à peu près à cette période qui sort. Il avait signé le contrat avec Gallimard 7 ou 8 ans avant. Il a mis 8 ans à pondre aussi un livre absolument indispensable. Mais bon, qui est aussi une histoire de paix.
Et oui, c'est un peintre qui fait des gazographes.
Voilà,
gazographes, ouais, c'est ça.
Très bien.
Bon, bref.
Tout va très bien.
De temps à autre, il faut le rappeler, parce qu'il ne fait pas que sortir des livres et des albums, Gainsbourg lâche le micro et la plume pour la caméra. Et ça non plus, c'est pas toujours un succès, Gauthier.
Non, quitte à faire des bides, on continue. On en a un peu parlé en distillant certaines informations tout au long. Je suis pas rentré plus en détail parce que je connais très très mal la carrière de Serge Gainsbourg au cinéma, mais bon, il a eu des rôles d'acteur, on en avait parlé un peu dans les premières émissions. Il a été aussi réalisateur, on avait parlé de son premier film. Là, en 83, il se réessaye, il part au Gabon pour son deuxième long métrage, le film Équateur, qui s'inspire d'un livre de Georges Simenon. Il y a tout pour faire un bon truc. Bah, c'est une boue. Apparemment, hein, parce que moi j'ai pas voulu le voir. Francis Huster en vedette. Serge Gainsbourg signe la mise en scène, la musique, il adapte le livre, il fait tout. Première mondiale au Festival de Cannes, réaction peu favorable selon la critique de l'époque.
Bon, donc on oublie Équateur. On va revenir rapidement sur le personnage de Gainsbourg, Gauthier. Tu peux nous le décrire ?
Ben, on avait eu un peu l'identité visuelle lors des précédentes émissions du Serge Gainsbourg Jane Birkin. Ce type avec un peu
les
la
répétos.
Barbe de deux jours, les répétos, etc. Un peu looké, un peu classieux. Gainsbourg, puisque c'est de lui dont il s'agit maintenant, c'est pas la même. C'est jeans, sale gueule, pas propre, quoi.
Toujours une gueule vraiment amochée, là.
Ah ouais, ça va pas fort les affaires. Et dans la biographie qu'on vous cite depuis le début, dont j'ai plus le nom de l'auteur, mais dans cette biographie de Gainsbourg, souvenir de soirée par un dénommé Bertrand de l'Abbé. C'est de très loin mon pire souvenir. Ce soir-là, il nous a mis très en colère. Serge jouait à se mettre en danger. Il avait commencé par me demander de dire à Bambou combien je la trouvais jolie. Puis il s'est mis à se cogner, à se taper la tête contre les murs lui-même. C'était horrible. Je suis rentré avec Volson, notre invité, parce que nous avions peur qu'il meure dans la nuit tellement il perdait du sang, tellement il avait une volonté d'autodestruction, de se faire du mal. En gros, un super dîner. T'invites Serge Gainsbourg à dîner chez toi. Il se fout des coups de tête dans la table. À titre indicatif, le lendemain, il passera aux 13h pour une interview très connue de lui où il a un Coca, vous l'avez sur le site de l'INA notamment, ou sur la chaîne YouTube de l'INA, où il a un cocard, etc.
Et c'est le lendemain de ça, quoi.
C'est le lendemain de ça, et il fera croire qu'en fait il s'est fait casser la gueule par des paras pour reprendre un peu
le truc de la Marseillaise.
Le truc de la Marseillaise, où il y avait eu les paras de Strasbourg et tout. En fait, pas du tout, il s'est pas battu, c'est juste lui qui s'est fait ça tout seul, pété comme un âne dans un dîner. Voilà.
Une vraie descente aux enfers. T'as un autre exemple ?
Oui, parce que c'est le personnage que tout le monde connaît pour ceux qui s'intéressent pas à la musique, c'est-à-dire c'est le personnage des émissions Serge Gainsbourg à la télé de Gainsbourg. Alors vous irez voir par
avec
exemple
Whitney Houston,
avec Whitney Houston qui lui dit I want to fuck you, c'est celui qui brûle le billet de banque. On en reparlera lors de la prochaine émission. Et vous avez aussi à cette époque là Serge Gainsbourg avec des lunettes noires sur le plateau de Droit de réponse de Polak, une émission que j'aurais aimé connaître parce que c'était quand même n'importe quoi. Droit de réponse de Polak, il y a quand même tu te fais des best-of de Droit de réponse de Polak, c'était
j'ai jamais songé.
Ah, c'est la télé comme t'en as plus, hein.
C'est vrai.
Ah ouais, c'est la folie. Vraiment, c'est il y a Mais là, bon, l'intervention de Serge Gainsbourg, par exemple, c'est, il va expliquer à des journalistes de minutes qu'il faut qu'ils crèvent en direct à la télé, puis il va prendre un ballon et faire des bruits de paix, parce que Serge aime bien les paix.
Sur fond de reggae ou...
Non, là, juste des bruits de paix. Il y aura des chaises qui partiront, il y a une bagarre générale, je crois, à la fin de l'émission. Enfin bon, c'est Serge Gainsbourg, Gainsbourg.
Et puis Gauthier, il y a une rencontre, une belle, entre deux génies du XXe siècle, Gainsbourg et Bachung. Alors, c'est pas tout propre comme rencontre, mais j'aurais bien aimé être là. Tu nous racontes un peu à quoi ressemblait une journée de travail pour les deux loulous?
Oui, alors à cette époque-là, Alain Bachung est le jeune artiste qui monte, entre guillemets, un peu, et effectivement, il va vouloir se rapprocher de Serge Gainsbourg pour travailler avec Gainsbourg, comme Alain Chamfort l'a fait, Deneuve, Birkin, etc. Et Alain Bachung raconte les sessions d'enregistrement avec, ou les sessions de travail, tout du moins, avec Serge Gainsbourg. Je le retrouvais vers 15h chez lui. Il avait tout juste fini de ne pas se raser.
Ça, c'est génial.
Et on attaquait à la vodka Ricard à 15h, un cocktail éminemment connu. C'est vrai, pourquoi mettre de l'eau? La vodka a la même couleur. Pas con, Alain, effectivement. Il y avait un autre truc génial, c'était le tequila rapido. Un tiers tequila, deux tiers champagne. Tu mets une serviette sur le verre, tu tapes fort dessus pour que la mousse se barre, et après, cul sec. Ça fait l'effet d'une bombe. On travaille jusqu'à minuit, et puis après, on allait faire la foire. Voilà comment se travaillait ce petit binôme. Alors effectivement, rencontre de deux génies, pour le meilleur et pour le pire, manifestement. Eh ouais,
parce que Bachung, derrière, sort plaie blessure,
oui,
qui était une catastrophe.
Alors, très discutable.
Sigotier.
Très discutable. C'est l'un des albums les plus clivants d'Alain Bachung, Plaie Blessure. Mmh. Lui-même, Alain Bachung, dira toujours que pour lui, c'est l'un des albums les plus fondamentaux de sa carrière, parce qu'il dira toujours qu'il s'est trouvé. Et effectivement, Plaie Blessure, c'est ce qui permettra, dans l'originalité, l'inventivité d'Alain Bachung, les plus tard, Fantasy Militaire et tout. Plaie Blessure, c'est fondamental. Alors, ça sonne très violent, très bizarre.
C'est très mauvais.
Ah, non, c'est pas mauvais. Mais beaucoup de gens auront le même avis que toi, puisqu'il se vendra 10 fois moins que l'album juste avant, qui était, je crois, Pizza.
Mais il semblerait toutefois que cette collaboration ait... Oui, c'était Pizza. Ouais. Il semblerait que cette collaboration ait donné un nouveau souffle d'inspiration à Gainsbourg.
Oui, il va rencontrer une nouvelle muse, hein, entre guillemets. Il va se retrouver une petite jeunette pour chanter de chez Sanson. Alors, il va recomposer donc l'album dont on a parlé tout à l'heure pour Jane Birkin, et il va rencontrer Isabelle Adjani. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'on parlait de piscine? Et ben, ça sera la chanson Pull Marine, notamment, d'Isabelle Adjani.
J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine. Mes yeux sont...
Il a fait chanter sa piscine à quelqu'un.
Il a réussi.
Pour pull marine.
Il a réussi, ouais. On a une dernière petite anecdote à vous livrer. Allez, même si on n'a pas le temps, Gauthier, on l'a fait.
Ouais, pour Adjani, justement, Dominique Blanc-Francard, qui était à l'époque aux sessions d'enregistrement, donc notamment de cet album, qui dira il buvait beaucoup, il était même fortement imbibé en arrivant dès le matin. À l'époque de ses deux albums, donc celui d'Adjani et de Birkin, il fonctionnait au cocktail, il amenait un shaker dans sa mallette, et il en préparait à base de bourbon, des trucs à dégommer un bœuf, il en buvait 3 dans la journée, un dé à coudre aurait suffi à vous retourner le cerveau d'un être humain normalement constitué. Lui, il les buvait dans des grands verres à bière. Tranquille. Ouais. Ensuite, il est passé au 102, qui je suppose est une variante du 51.
C'est le double 51.
Ouais, voilà. Ouais. Il avait un verre dans chaque main pour faire la stéréo, comme il disait lui-même. Ça ne l'empêchait pas pourtant de travailler. Enfin, vous comprenez que les productions s'en sont ressenties.
Et oui, donc on quitte un Gainsbourg avec sa casquette d'ivrogne patentée. On va le faire en s'écoutant Lavabo, tiens, de Bachung.
Bah, une collaboration Gainsbourg-Bachung pour Plaie Blessure. Une sacrée chanson Lavabo, quand même.
On va s'écouter dans quelques secondes. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour notre prescription mensuelle, la dernière de la saison, Gauthier.
Et oui.
Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi.
Salut Théo.
À lundi.
Sois pas chien, prends-moi dans le désordre, c'est ça. viens devant, dis-moi ce que c'est lavabo, fond du couloir, troisième porte à droite, lavabo, tu cherches la lumière et c'est l'impasse, tu voudrais que ça débouche sur quoi? Pas sous la douche, tu joues dans quel groupe? T'es pas sûr, apprends ton playback, play mais sûr. Rejoins ta base au bar table, si on cherche des noirs, fais comme d'hab. La fille du patron, faut lui donner. Fond du couloir, troisième porte à droite, lavabo. Tu cherches la lumière et c'est la passe. Tu voudrais que ça débouche sur quoi? Choisis ton arme de toute façon.